Radio Vatican, France-Afrique.
Amis auditeurs, heureuse de vous retrouver à l'écoute de Radio Vatican. Le pape a repris mercredi les audiences générales en salle Paul VI au Vatican, renouant avec le cycle de catéchèse sur la lettre de Saint Paul aux Galates. Nous en parlons dans quelques instants dans l'actualité de l'Église, avant de nous rendre en Côte d'Ivoire, en République du Congo-Congo-Brazzaville, au Bénin. En ce qui concerne l'actualité sociopolitique africaine, elle nous conduira au Ghana, au Mali, en Éthiopie, entre autres. À tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle édition de notre programme.
Radio Vatican, France-Afrique, Françoise Niémier.
Reprise des audiences générales mercredi 4 août devant les fidèles et pèlerins réunis en salle Paul VI au Vatican, le pape a renoué avec le cycle de catéchèse sur la lettre de Saint Paul aux Galates initiée juste avant la pause estivale. À l'école de l'apôtre des Gentils, François a centré son enseignement sur l'unicité de l'évangile. Le pape a d'entrée de jeu relevé l'enthousiasme et la passion de Paul pour tout ce qui touche à l'évangile et à la mission. Tout en lui est consacré à cette annonce. C'est là sa vocation, a affirmé le Saint-Père. L'apôtre Paul a poursuivi François, interprète toute son existence comme un appel à évangéliser, à faire connaître le message du Christ. Malheur à moi, dit-il, si je n'annonce pas l'évangile. Pour Paul, a fait remarquer l'évêque de Rome, l'évangile est l'annonce de la mort et de la résurrection de Jésus. Il est le salut offert à l'humanité. Devant un don si grand qui leur a été fait, l'apôtre ne parvient pas à comprendre comment les Galates envisagent d'accueillir un autre évangile. Car il n'y a qu'un seul évangile, l'unique authentique, et c'est celui de Jésus-Christ. La parole claire et ferme de Paul a été salutaire pour les Galates et elle l'est aussi pour nous, a souligné le pape, qui, comme d'habitude, a salué les fidèles francophones en ces termes.
Saluto cordialmente i fedeli di lingua francese. Fratelli e sorelle, preghiamo.
Je salue cordialement les personnes de langue française. Frères et sœurs, prions pour tous les pasteurs afin qu'à l'exemple de Saint Jean-Marie Vianney, ils portent à leurs frères et sœurs en difficulté l'évangile vivant de leur témoignage d'amour, de miséricorde et de solidarité. Merci. À la fin de sa catéchèse, le pape a évoqué l'explosion survenue dans le port de Beyrouth, au Liban, il y a tout juste un an, appelant la communauté internationale à aider le pays du Cèdre à se reconstruire avec des gestes concrets. Au chapitre de nomination, le Saint-Père a nommé le professeur Mpilene Piol Sitole, professeur de l'université de Free State Kwakwa Campus à Punta Dit Jaba en Afrique du Sud, membre ordinaire de l'Académie pontificale des sciences sociales. Les résultats du fonds caritatif Jésus divin travailleur voulu par le pape François pour les personnes touchées par la crise de la pandémie ont été présentés mardi lors d'une conférence de presse dans la salle des empereurs du vicariat de Rome. L'objectif basé sur l'intuition et les indications du pape était d'aider ceux qui ont tout perdu à cause de la COVID-19 à obtenir des subventions, des aides aux revenus et à se réinsérer dans le monde du travail. C'est un travail capillaire d'écoute et de proximité de la part de l'Église, mais aussi des institutions pour sortir de nombreuses personnes de l'abîme de solitude dans lequel le confinement et autres mesures restrictives les avaient poussées. La famille religieuse des Sœurs de Jésus Serviteurs s'est agrandie dimanche 1er août dernier d'une nouvelle membre, Sœur Félicienne Bakita Echenge, qui a prononcé ses vœux perpétuels au cours d'une messe présidée par Mgr Jean-Salomon Lesoutier à la paroisse Saint-Joseph Charpentier de Yopougangar. Dans son homélie, l'ordinaire du lieu a exhorté la votante à la persévérance face aux difficultés itinérantes à la vie. Les détails dans ce compte rendu de notre correspondant local.
Sœur Félicienne Bakita Etienge a prononcé ses vœux perpétuels en présence de Mgr Maurice Kounan Kwasi, évêque émérite du Daloa. L'évêque de Yopougon, Mgr Jean-Salmon Lesoutier, président l'Eucharistie, l'a invité à la persévérance.
C'est un peu de persévérance, puisque les difficultés au sein de la vie religieuse ne manquent pas. Et c'est à travers ces difficultés que le Seigneur évalue la solidité de l'engagement. Donc, elle soit persévérante. La vie religieuse est quelque chose de difficile. Donc, il faut vraiment prendre ses précautions, se faire suivre quand on sent une vocation avant de s'engager. Ce ne sont pas des choses pour lesquelles on s'engage à la légère et puis après on revient, on repart, etc. De sorte que si l'engagement est authentique, il puisse éclater aux yeux de tout le monde. Mais si on n'est pas sûr qu'on a la vocation, il vaut mieux attendre.
Sœur Félicienne Bakita, quant à elle, s'est dit heureuse de servir le Seigneur au sein de la famille religieuse des Sœurs de Jésus Serviteur.
En ce jour du 1er août où j'ai fait mon engagement définitif, je rends seulement grâce à Dieu. Lui qui m'a donné toutes les grâces pour que je puisse quitter et puis aller vers la terre promise avec cet objectif que je voulais atteindre, je le bénis infiniment.
Notons que les Sœurs de Jésus Serviteurs sont une congrégation religieuse féminine appartenant à la famille ignatienne. Marcel Ariston Blé, Abidjan, Côte d'Ivoire, pour Radio Vatican.
Direction République du Congo, Congo-Brazzaville, où notre correspondant local nous rend compte de l'ordination presbytérale de trois prêtres dans le diocèse de Gamboma.
Le presbytérium du diocèse de Gamboma s'est élargi de trois nouveaux prêtres le samedi 31 juillet dernier. Il s'agit des diacres Crêpe Okwa, économe, Neria Nakuntala, secrétaire chancelier, et Georges Okweri qui ont été ordonnés prêtres par Mgr Urbain Gasongo, évêque de Gamboma. Coïncidant ainsi à la clôture de l'année pastorale 2020-2021, cette ordination a eu pour cadre la cour paroissiale de Saint-Joseph l'Ouvrier de Diambala, chef-lieu du département des Plateaux, en présence de l'archevêque d'Owando, du chargé d'affaires à l'annonciature apostolique, du secrétaire général de la conférence épiscopale du Congo, du recteur du grand séminaire de théologie cardinal Émile Biaïnda, ainsi que de nombreux prêtres. De même, madame la préfète du département des Plateaux et le peuple de Dieu venu de tous les horizons du diocèse et d'ailleurs ont pris part à cette messe d'ordination. Dans son homélie, Mgr Urbain a exhorté les ordonnants d'évangéliser en profondeur le tissu culturel du diocèse.
Le sacerdoce communique un pouvoir sacré qui n'est autre que celui du Christ. L'exercice de cette autorité doit donc se mesurer d'après le modèle du Christ. Le diocèse de Gamboma avait reçu comme mission du Saint-Siège l'évangélisation en profondeur du tissu culturel. Évangéliser notre tissu existentiel nous évite l'errance et ne fait pas de nous des électrons libres.
Sévérin Moussavo, Diambala pour Radio Vatican.
Rendons-nous au Bénin pour parler de la passation de charge pastorale à la paroisse Saint-Michel de Cotonou.
La paroisse Saint-Michel-Gbeto de Cotonou dans l'archidiocèse de Cotonou au Bénin a un nouveau curé en la personne du père Irénée Soutaï. Il a été installé dans ses fonctions le dimanche 1er août 2021 par le vicaire général en charge de la pastorale des paroisses, le père Roger Sevo, représentant son archevêque, Mgr Roger Humbedi, au cours de la messe d'action de grâce qu'il a présidée, avec la concélébration d'une vingtaine de prêtres. La joie d'accueil des paroissiens est ici portée par la vice-présidente du conseil pastoral paroissial, Madame Francine Aïssi-Wanyi.
Toute la communauté abbatiale souhaite la bienvenue et prie Dieu de vous accorder un fructueux ministère parmi nous.
Le temps de l'homélie a permis au Père Sevo de s'adresser aussi bien aux nouvel élus qu'aux participants.
Père Irénée, je vous exhorte à l'humilité, dans la patience et la prière pour conduire ce peuple comme le firent jadis Moïse, Paul et tous vos devanciers ici. Comme pasteur propre de cette communauté, et vous, peuple de Dieu, sous la houlette de votre nouveau pasteur, vous tresserez au bout de la vieille belle corde la nouvelle pour attirer à Dieu tous ceux et celles qui ne le connaissent pas encore.
Les mots de remerciement du père Zoutaï ont mis fin à la célébration.
En tout premier lieu, je chante la miséricorde du Seigneur qui, de sa bonté, nous a accordé ce jour de fête et de joie. Un grand merci à chacun.
Guy Dosuyovo, Cotonou pour Radio Vatican.
Dans quelques instants, l'actualité sociopolitique.
<t'->
Plusieurs milliers de manifestants sont descendus mercredi dans les rues de la capitale du Ghana, Accra, pour protester contre l'action gouvernementale du président Nana Akufo-Addo. Depuis plusieurs mois, des jeunes s'organisent autour du hashtag « Réparer le pays » sur Twitter pour dénoncer les difficultés économiques auxquelles ils font face depuis le début de la pandémie. Habillés en rouge et noir, les manifestants ont défilé dans le calme dans le centre de la capitale Accra en entonnant des chants patriotiques. Ils ont brandi des pancartes sur lesquelles il était écrit « La corruption engendre la pauvreté » ou encore « Réparer notre système éducatif maintenant ». L'Éthiopie a justifié mercredi la suspension pour 3 mois des activités au Tigré de Médecins sans frontières et du Conseil norvégien pour les réfugiés en les accusant de désinformation. Médecins sans frontières et le Conseil norvégien pour les réfugiés répandent la désinformation dans les médias sociaux et sur d'autres plateformes en dehors du mandat et des objectifs pour lesquels ces organisations ont été autorisées à opérer, affirme un communiqué des autorités éthiopienne. Selon les Nations Unies, plusieurs centaines de milliers de personnes sont dans une situation proche de la famine après avoir été notamment déplacées par les hostilités qui frappent le Tigré depuis novembre 2020. Les syndicats des médecins congolais ont invité mercredi tous leurs affiliés à reprendre le travail dans les hôpitaux de la République démocratique du Congo, paralysés pendant 3 semaines par une grève générale. Ce mercredi matin, tous les médecins sont invités à reprendre le travail. À l'issue des négociations avec le gouvernement, la grève est suspendue sur tout le territoire national, a déclaré Dr Mankoy Badjoki, président du syndicat des médecins du Congo. Un djihadiste algérien qui avait rejoint des groupes terroristes au Sahel a été capturé dans le sud de l'Algérie après la frontière avec le Mali, a annoncé mercredi le ministère algérien de la Défense.
Radio Vatican, France-Afrique. Françoise Niamier.
La police nigériane a libéré mardi 5 Nigériens arrêtés début juillet à Abuja pour avoir porté des t-shirts avec l'inscription « Buhari doit partir », des vêtements appelant au départ du président Muhammadu Buhari une semaine après la décision d'une cour de justice de les libérer, a indiqué leur avocat. 37 personnes ont été tuées, plusieurs autres blessées mardi dans un accident de la circulation près de la ville de Ségou dans le centre du Mali, a indiqué le gouvernement malien. 37 morts et des blessés graves, c'est le bilan provisoire d'un accident de la circulation survenu ce mardi à Zambougou, à 200 km de Ségou, a écrit le gouvernement sur Twitter sans préciser les circonstances. Le cabinet ministériel soudanais a voté mardi en faveur de la ratification du statut de Rome de la Cour pénale internationale CPI, une nouvelle étape vers un éventuel procès de l'ancien président soudanais Omar el-Béchir devant cette instance internationale à La Haye. Arrêté et jugé au Soudan après sa destitution en 2019 sous la pression d'une révolte populaire, M. Béchir est recherché par la Cour pénale internationale qui a émis des mandats d'arrêt contre lui et d'autres figures de l'ancien régime pour crimes contre l'humanité et génocide au Darfour, une région de l'ouest soudanais déchirée en conflit. Le président tunisien Kais Saied, qui s'est octroyé les pleins pouvoirs depuis le 25 juillet, bénéficie d'un plein soutien de l'Égypte, a annoncé mardi le ministre des Affaires étrangères égyptien lors d'une visite officielle à Tunis. La mission des Nations Unies en Centrafrique, MINUSCA, a reçu mardi le renfort de 300 casques bleus rwandais pour sécuriser l'axe de ravitaillement vital reliant la capitale Bangui au Cameroun, a-t-elle indiqué. Ce déploiement de troupes intervient dans le cadre d'une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies du 12 mars prévoyant d'augmenter progressivement d'environ 3000 casques bleus les effectifs de la MINUSCA. Le reste du bataillon qui compte 450 soldats arrivera d'ici la fin de l'année, a indiqué M. Abdulaziz Fall, porte-parole de la force de la MINUSCA, précisant que ces casques bleus rwandais resteraient une année.
Vous écoutez Radio Vatican, c'est l'heure du magazine.
Notre programme se poursuit avec le magazine sur les organisations internationales et solidarité. Donatien Yembo.
Les organisations internationales au service de la coopération, du développement et de la solidarité entre les peuples.
Notre magazine sur les organisations internationales et solidarité porte sur l'appel que M. Kudonkyu, directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, FAO, a lancé aux dirigeants mondiaux à l'ouverture du pré-sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires lundi 26 juillet dernier. M. Kudonkyu a appelé à adopter d'urgence une approche globale et coordonnée pour transformer les systèmes agroalimentaires et réaliser les objectifs de développement durable ODD d'ici à 2030. Nos systèmes agroalimentaires ne fonctionnent pas convenablement et dans de nombreuses régions du monde, ces systèmes ne sont pas efficaces, inclusifs ni durables, a déclaré M. Ku avant d'indiquer que la pandémie de COVID-19 avait aggravé la situation. Selon un rapport publié ce mois-ci par la FAO et ses partenaires, environ un dixième de la population mondiale, soit jusqu'à 811 millions de personnes, étaient sous-alimentées l'année dernière. Compte tenu de ce chiffre, il faudra un effort considérable pour parvenir à honorer l'engagement qui a été pris de mettre un terme à la faim d'ici 2030. Le directeur général de la FAO a souligné que, en cette période critique, le monde faisait face à un défi historique qui consiste à transformer les systèmes agroalimentaires et à se remettre sur la voie de la réalisation des objectifs de développement durable. Pour que cette transformation ambitieuse devienne une réalité, nous devons faire évoluer les politiques, l'état d'esprit et les modèles d'activité, a-t-il déclaré lors de la cérémonie d'ouverture à laquelle on participé des dizaines de chefs d'État et de gouvernement, des ministres et d'autres représentants de haut niveau, dont une partie a assisté à la réunion en présentiel et l'autre en visioconférence. Parmi les intervenants figuraient le Premier ministre italien M. Mario Draghi et le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies M. Antonio Guterres, le président du Rwanda et président de l'Agence de développement de l'Union africaine M. Paul Kagame et le représentant du pape François Mgr Paul Gallagher, secrétaire du Saint-Siège pour les relations avec les États. M. Ku a notamment souligné que la FAO était devenue plus efficace, plus inclusive et plus adaptée aux buts poursuivis ces deux dernières années et qu'elle était positionnée stratégiquement pour mener nombre de changements nécessaires en vue de la transformation des systèmes agroalimentaires. Le nouveau cadre stratégique de la FAO pour la prochaine décennie, approuvé le mois dernier par la conférence de la FAO, met l'accent sur la transition vers des systèmes agroalimentaires plus efficace, plus inclusif, plus résilient et plus durable repose sur les quatre améliorations en matière de production, de nutrition, d'environnement et de conditions de vie afin de ne laisser personne de côté. En outre, l'initiative Main dans la main, une initiative phare de la FAO fondée sur l'appariement, vise à accélérer la transformation agricole et le développement rural durable afin d'éradiquer la pauvreté et d'éliminer la faim. Le directeur général de la FAO a également cité la Coalition pour l'alimentation, une initiative élaborée en partenariat avec le gouvernement italien et le programme FAO d'intervention et de redressement dans le contexte de la COVID-19 qui complète l'approche globale de l'organisme du système des Nations Unies. La FAO continue de renforcer les efforts conjoints menés avec toutes les parties prenantes dans tous les secteurs, régions et communautés, a-t-il déclaré, avant d'ajouter « ensemble avec solidarité, efficacité et détermination ». Le directeur général de la FAO a également souligné le rôle crucial que jouent les jeunes et a expliqué comment, peu après avoir pris ses fonctions en 2019, il a lancé le comité de la jeunesse et le comité des femmes de la FAO afin d'accroître la participation des jeunes, de contribuer à l'autonomisation des femmes et de susciter leur intérêt pour l'innovation et comment il a sollicité d'importants groupes de jeunes du monde entier dans le cadre du lancement du Forum mondial de l'alimentation. organisé en partenariat avec le gouvernement italien. Le pré-sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires s'est tenu du 26 au 28 juillet 2021. L'objectif de la manifestation était de présenter les dernières approches scientifiques et fondées sur des données probantes de la transformation des systèmes alimentaires dans le monde et lancer une série de nouveaux engagements dans le cadre de coalitions d'action et de mobiliser des nouveaux financements et partenariats.
Marie-Josée Mwando Boabualo nous présente maintenant la rubrique consacrée à l'éducation.
Commençons notre rubrique sur l'éducation par le Burkina Faso avec la journée de l'excellence scolaire. Les 99 lauréats ont reçu des attestations, des kits scolaires, des tablettes ainsi que des ordinateurs et des numéraires. Des prix spéciaux ont aussi été décernés aux élèves excellents vivant avec un handicap visuel ou auditif. C'est l'occasion de féliciter les meilleurs élèves du Burkina Faso dans les différents échelons, a déclaré le président Roch Marc Christian Kabore. Il a aussi fait le constat que les résultats ont été beaucoup plus probants dans les régions à fort défi sécuritaire, tout un symbole de la résilience de l'école burkinabé. Si nous arrivons à organiser une telle cérémonie, c'est parce que l'école, malgré les difficultés que nous connaissons, se poursuit, a poursuivi le président du Burkina Faso. Roch Marc Christian Kabore s'est aussi réjoui de la tenue prochaine des États généraux de l'éducation qui vont permettre de définir où sont les faiblesses et les forces, ainsi que ce qu'il faut changer de manière à avoir des meilleurs résultats pour la jeunesse burkinabé. En Tunisie, une liste de 11 000 étudiants qui partiront à l'étranger pour poursuivre leurs études a été envoyée au ministère de la Santé pour qu'ils bénéficient de la vaccination anti-Covid-19. C'est ce qu'a indiqué la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Olfa Ben Ouda Sioud. Elle a précisé que tous les étudiants figurant sur cette liste ont été convoqués par SMS par la plateforme EVAX pour bénéficier du vaccin anti-Covid-19 à partir de mercredi. La ministre a signalé qu'en coordination avec le ministère de la Santé, ces étudiants recevront des doses de vaccins homologués en Europe afin de leur assurer une rentrée universitaire dans de bonnes conditions, notamment le vaccin Johnson à dose unique. En Algérie, le délai de réception des candidatures en vue de participer à la deuxième édition du prix de la langue et la littérature Amazigh, initialement annoncé pour le 4 août, a été reporté au 4 septembre prochain pour cause de situation sanitaire difficile due à la recrudescence des cas COVID-19. Lors de la première édition, une centaine de travaux avaient été retenus. La cérémonie de remise des prix de cette deuxième session aura lieu lors des festivités du Nouvel An à Mazig, Yenanière, correspondant au 12 janvier de chaque année. En pleine quatrième vague de Covid-19, la France prépare la rentrée scolaire. C'est évidemment une forte incitation à être vacciné, a souligné le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer à propos du second degré collège-lycée. Dans le secondaire, seuls les élèves non vaccinés seront évincés et devront suivre l'enseignement à distance s'ils sont cas contact, les autres pouvant poursuivre en présentiel si la situation sanitaire le permet, a précisé le ministre. Pour tenter de maintenir ouverts toute l'année les établissements, le ministère met en place un protocole sanitaire qui comprend 4 scénarios en fonction des degrés de circulation du virus, avec des mesures adaptées, à savoir le port du masque est obligatoire en intérieur à partir du collège. Il faut rouvrir les écoles fermées par la pandémie, a plaidé l'UNICEF la semaine dernière, alors que 600 millions d'enfants en âge scolaire sont actuellement affectés par les mesures de restriction anti-Covid. Cela ne peut pas continuer. Les écoles devraient être les derniers lieux à fermer et les premiers à rouvrir, a plaidé James Elder, porte-parole de l'agence onusienne chargée de l'enfance, lors d'un point de presse régulier de l'ONU à Genève, en Suisse. Rouvrir les écoles ne peut pas attendre que les élèves et enseignants soient vaccinés, a-t-il souligné, ajoutant que gouvernement et donateurs devaient protéger le budget de l'éducation malgré les difficultés économiques causées par la pandémie. Si les enfants de l'hémisphère nord sont encore en vacances d'été, en Afrique orientale et du sud, ce sont 40% de tous les enfants en âge scolaire qui sont privés d'école, a-t-il souligné. Dans la région Asie-Pacifique, près de la moitié des écoles ont été fermées pendant plus de 200 jours. Et en Amérique latine et dans les Caraïbes, qui ont vu des durées records de fermeture, l'éducation, la sécurité, les amis et la nourriture ont été remplacés par l'angoisse, la violence et les adolescentes enceintes, a martelé le porte-parole qui a cité l'exemple de l'Ouganda, où les grossesses parmi les filles de 10 à 24 ans ont bondi de 20% entre mars 2020 et juin de cette année.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
C'est la fin de cette édition qui vous a été présentée par Françoise Niamia. Merci de l'avoir suivie en notre compagnie et surtout de votre fidélité renouvelée. À Radio Vatican. Au revoir.
Mama Maria, merci, Mama. Ouh, yeah, yeah.